Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Mickaël Azoulay de American Vintage. Bonjour Mickaël.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oula.
Pas facile, hein.
Mickaël Azoulay.
Ouais.
Donc, je suis fondateur et American Vintage.
Ouais.
41 ans.
Hyper
marié,
jeune.
Trois garçons. Voilà.
Très bien.
Et je vis à Marseille.
Parfait. La deuxième question que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais reprendre tout ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la création d'American Vintage? Et ensuite, on va diguer un petit peu dans tous les sujets liés à l'entrepreneuriat dans la mode, quoi.
Alors, moi, je suis né et j'ai grandi à Marseille.
Ouais.
J'ai eu la chance de grandir dans une belle ville proche de la mer, cosmopolite. On a grandi dans des quartiers un peu populaires. Et c'est vrai que je pense faire partie des gens qui ont eu cette chance d'être des enfants dans la rue tout le temps, avec les copains à jouer. Alors, on partait peu, voire pas en vacances. Mais avec les potes, du matin au soir, on jouait au ballon, du matin au soir, on faisait du vélo, et c'était une enfance, voilà, j'étais en club de foot, et quand venait l'été, on partait à la piscine avec, il y avait toujours une maman d'un copain qui nous emmenait, voilà, donc avec le recul, c'était une belle enfance. C'était une très belle enfance. Ensuite, j'ai eu un parcours scolaire. J'étais pas mauvais à l'école. Après, au collège, on va dire que j'ai commencé un petit peu à faire un peu l'imbécile. Et arrivé en troisième, on m'a dit, c'est soit tu redoubles, soit tu pars en BEP.
Ouais.
J'avais jamais redoublé et j'étais un peu arrogant et rebelle. Du coup, j'ai dit, je vais en BEP. Donc, après la troisième, j'étais le plus jeune dans une école. Une école un peu d'apprentissage tertiaire en BEP. Donc j'étais le plus jeune de l'école et j'ai fait une première année de BEP en froid et climatisation. Ensuite je faisais un peu l'imbécile, du coup cette école elle m'a gentiment un peu mis à la porte et là je suis parti dans une autre école pour faire encore un BEP électrotechnique. Et que j'ai obtenu au bout de 2 ans. Et ensuite, j'ai fait un bac pro par alternance, toujours en électrotechnique. Et c'est vrai que c'est au bout de 8 à 10 mois de bac pro par alternance que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, j'étais pas heureux. Entre l'école, le travail, le métier, le bâtiment et toutes ces choses-là, c'est vrai que j'étais pas très heureux, on va dire. C'était pas ma voie, mais j'ai été mal orienté. Et après ça, naturellement, j'ai arrêté et j'ai commencé. J'avais commencé déjà très jeune, quand j'étais en BEP, le soir après l'école, je faisais des petits jobs pour gagner un peu des sous. Et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé assez jeune à goûter un peu au travail après l'école, un peu à l'argent et tout ça. C'est vrai que mes motivations pour l'école, elles ont commencé un petit peu à être moindres, et mes motivations pour rentrer un peu dans la vie active et travailler, elles étaient plus grandes. Donc du coup l'école pour moi était devenue un peu au second plan à cette période, et pire encore j'étais dans un cursus qui était pas vraiment pour moi, quoi.
Donc, mais ça avec le recul on peut rien y changer.
Non, avec le recul au contraire.
Ouais.
Au contraire ça mais avec le recul aussi on peut dire que j'ai eu de la chance de provoquer ou d'être provoqué à certains moments de ma vie, mais j'aurais pu passer à côté de ce que je fais aujourd'hui.
Bah ouais.
Donc avec le recul, tu te dis que finalement c'est bien. Mais si j'ai aujourd'hui, grâce à ce recul et cette expérience, des conseils à donner à des jeunes, à mes enfants, c'est d'essayer en tant que parent et d'essayer en tant qu'ami, en tant que tonton ou autre, de voir très tôt chez les jeunes ce qui leur correspond le mieux et d'essayer de les orienter vers...
De les guider, ouais.
De les guider un petit peu, quoi. Et j'aurais pu...
Mais qu'est-ce que t'aurais fait différemment, finalement ? Tu penses que...
Bah, j'aurais fait une école de commerce.
Ouais.
Bah ouais, j'aurais fait une école de commerce ou une école de mode, mais surtout de commerce, parce que c'est par le commerce et le terrain que j'ai découvert après en moi un potentiel ou une fibre artistique et la mode. Je viens du terrain du commerce, mais c'était pas vraiment en BEP, froid clim et électrotechnique.
Tu t'éclatais clairement pas.
Non, alors que je viens d'une issue d'une famille. Mon papa était commerçant, il fabriquait du jean quand j'étais pas né à Marseille. Et c'est vrai que bon, à mon adolescence, la situation familiale était un peu plus dure, un peu plus compliquée. Donc, il a fallu que je commence à bosser. Et c'est vrai que mes parents, qui ont été guide pour beaucoup de gens d'une famille qui arrive dans les années 60 du Maroc et une grande famille, donc ils ont été guides et mon papa il s'occupait un peu de tout le monde. C'est vrai que pour moi, à mon adolescence, ils avaient un peu pris je vais pas dire du recul, mais ils étaient pas focus sur...
Ils étaient pas au taquet sur sur Michael, quoi.
Sur moi, sur ça, non, c'était plutôt essaie d'apprendre un métier manuel, comme ça au moins t'auras toujours un job, du travail et voilà, alors que bon, c'est des commerçants, et finalement, enfant de commerçants, ben voilà, les chiens sont pas des chats, et du coup, j'ai pas eu cet encadrement-là à ce moment-là, je leur en veux pas du tout, au contraire.
Ouais, bien sûr.
Mais c'était, il fallait bosser et apprendre à cette époque-là. On parlait, dans ces années-là, c'était le démarrage du chômage en France. On parlait beaucoup de ça. Et c'est vrai que dans les familles, tout le monde, ceux qui avaient peu de problèmes de chômage, d'emploi, c'était les gens qui bossaient un peu dans les métiers un peu manuels, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà.
Premier job, c'est plutôt parce que là, quand tu disais tout à l'heure que tu bossais le soir après l'école, etc., c'était dans quel type?
J'avais 15 ans. J'ai commencé à 15 ans tous les soirs après l'école, j'allais bosser.
Mais c'était dans quoi?
C'était des jobs. Je faisais livreur de pizza. Je faisais les vacances, les grandes vacances. J'étais serveur pour des réceptions, des choses comme ça, quoi, comme beaucoup de jeunes.
Bien sûr. Ok. Et premier job full time, c'est quoi alors?
Vendeur en magasin.
Ouais.
Donc en fait, c'est quand vraiment j'ai décidé d'arrêter l'école, le bac pro par alternance, l'électricité, l'électrotechnique, tout ça, que là j'ai dit arrêt. Et donc j'ai eu un petit moment où je continue à faire ces petits jobs. D'accord, mais c'était pour moi des jobs. Alors c'était bien, mais c'était alimentaire. Ça me plaisait parce que j'étais libre. D'accord, j'avais ce sentiment de liberté de prendre mon scooter et de me balader dans les villes et dans la ville et voilà. Donc c'était génial. Honnêtement, j'avais déjà, en fait, maintenant avec le recul, que je me rends compte que j'avais déjà très tôt besoin de ce sentiment de liberté. Mais après, voilà, après il a fallu trouver un job full time en journée. Et par hasard, je suis rentré vendeur en magasin. Et là, pour le coup, j'ai tout de suite compris que la vente, le commerce, le contact, les gens allaient un peu chasser. Et c'était vraiment, finalement, c'était un peu inné, quoi. C'était un peu inné, oui. C'est dans les gènes, hein. Donc, du coup, là, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Et... j'avais dealé à l'époque, chez mon employeur, j'avais dit, voilà, moi je veux bien bosser, mais à 5h, 5h30, il faut que j'arrête. Parce que le soir, je voulais continuer absolument à aller livrer des pizzas, à faire des petits jobs comme ça, qui me permettaient d'arrondir mes journées, mes semaines, et c'était agréable. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques temps, je suis devenu vite un des premiers vendeurs.
Et tu vendais quoi à l'époque?
C'était des magasins, c'était une chaîne de magasins sur Marseille, il y en avait 3-4. C'était des magasins, on vendait beaucoup de jeans, d'accord. C'était, bon, on va dire que la marque premium, c'était Levi's. Et après, c'était très populaire, très très populaire, mais ça marchait bien, quoi. Il y avait quand même du monde, il fallait s'accrocher. Et c'est vrai que il fallait vendre beaucoup de pièces, parce que la pièce moyenne était... à l'époque à 100, 200 francs, quoi, donc 30, 35 euros aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que bah, les gens, c'était, on va dire, 70% hommes, 30% femmes. Mmh. Et il fallait faire du débit. Ouais. Il n'y avait pas le choix. Mais c'était une école de vente où on mmh. était très agressif,
ouais.
très accrocheur.
Mais ça veut dire quoi être agressif et accrocheur quand t'es en boutique?
Bah déjà c'était notre époque, on va dire que le merchandising n'existait pas,
ouais.
et on va dire que le merchandising était dans les vitrines. Donc à l'époque on se servait des vitrines et les clients nous emmenaient devant les vitrines pour nous dire je veux telle ou telle pièce. Mmh. Donc on avait à cette époque-là des étalagistes qui venaient toutes les semaines pour refaire les vitrines,
mmh.
et on va dire que les premiers vendeurs et le premier merchandising c'était les vitrines. Et nous à l'intérieur c'était surtout du stockage. Donc en fait il fallait déjà connaître ses stocks. Et il n'y avait pas d'informatique.
Mmh.
C'était des caisses à la main enregistreuses, quoi, à l'ancienne. Et du coup, il fallait vraiment que on passait beaucoup de temps en réserve, beaucoup de temps en stockage. Et à force, on connaissait quand même un peu nos stocks. Et c'est vrai que c'était aussi une école dure parce que on restait jamais sans rien faire. Même le magasin, quand il était au carré nickel, eh ben, on défaisait les piles propres pour les refaire tout le temps, pour jamais rester sans rien faire. Et c'était un peu le côté, quand les gens ils passent devant la boutique, devant les vitrines, ils voient que les équipes ils sont en train de bouger,
sont taquées,
ça amène de la vie.
C'est le restaurant plein.
S'il n'y a pas
plein,
de clients, ça donne aux gens envie de rentrer. Quoi. Donc voilà, c'était non-stop du matin de 9h à 18h, 20h, ça dépendait des périodes.
Et pourquoi tu étais un des meilleurs vendeurs? Pourquoi tu étais plus fort que les autres?
Bah quand j'étais petit, mes parents étaient commerçants, ils avaient un magasin et
t'avais ça dans le sang.
Je voyais ma mère faire, j'avais 4-5 ans, ils m'emmenaient pendant les périodes de Noël. Je voyais mon père, ma mère faire et c'est vrai que j'ai baigné dans ça et en vérité, je me demande pourquoi après la troisième, c'est ça là où je vous dis je suis parti sur autre chose quoi.
Ouais, sur le froid, le chaud,
l'électrotechnicien, le chaud, les ampoules et tout ça,
ouais,
les câbles.
Ouais, c'est bizarre, ouais.
Et je faisais les tranchées surtout. Donc du coup j'avais une facilité à, et puis j'aimais la vente, j'aimais le produit, j'aimais
les gens surtout.
J'aimais les gens et les servir.
Bien sûr.
Vraiment. Et je me donnais à fond.
Mm.
Par contre, c'est vrai que même dans les jobs et même dans tout ça, j'ai rarement voire jamais triché, je me donnais à fond.
Mm.
Je me donnais tellement à fond qu'après j'avais toujours des clashs à un moment parce que ça me fatiguait, ça me gavait des fois un sentiment un peu de pression trop forte pour rien ou d'injustice. Du coup, j'allais au clash ou je changeais d'employeur.
Ouais.
Mais j'étais entier. Donc, j'allais pas juste pour prendre
ton salaire,
sous, mon salaire et basta, quoi.
Mmh.
Donc, à tel point que j'ai tellement donné, à la fin, j'en pouvais plus. Et je me sentais un peu comme un lion en cage, en fait, en boutique.
Mmh.
Donc, c'est vrai que après quelques années, j'ai dû faire ça deux ans et demi max. J'en avais marre, je me sentais vraiment étouffé, j'avais pas d'espace et en boutique j'en pouvais plus, quoi. Et par la suite j'ai eu l'opportunité par hasard, en provoquant aussi un peu le destin, de faire représentant. Et c'est là où le côté représentant, mon papa aussi était représentant à l'époque et il était aussi représentant pour lui-même. J'avais fait avec mon père, pendant ces petits jobs que je faisais, à un moment donné, j'étais avec lui, avant que je commence vendeur, il m'avait dit viens avec moi, il faisait du porte-à-porte, il vendait des meubles sur catalogue. Et c'était vraiment dur. J'avais fait quelques journées avec lui et aller dans les cités et commencer par le dernier étage, descendre et faire du porte-à-porte sur tous les foyers et vendre des meubles en catalogue. Alors ça a marché à une époque. Et c'est vrai que moi, quand j'avais 18 ans, à ce moment-là, il y avait quand même déjà les grands magasins, la grande distribution, les Conforama et autres. Du coup, ça s'était un peu perdu. Mais mon père, avec ses 40 années d'expérience, il arrivait quand même
à vendre des trucs.
Ouais. Mais quand il faisait un contrat dans le mois, c'était pas mal. Des fois, c'était un contrat toutes les 6 semaines. Des fois, c'était 3 contrats dans le mois. Du coup, moi, c'est vrai qu'au bout de quelques jours, je me suis dit, papa, je peux pas... Ça me plaît pas du tout, quoi. Faire ça toute la journée, taper.
Ça me gonfle.
C'est dur.
C'est hyper dur.
Et puis à ce moment-là, les gens, ils t'ouvraient pas. C'était le début aussi où il y avait la sécurité, les codes pour entrer dans les immeubles. Donc, il fallait vraiment
Et puis à aucun moment il y a ce côté satisfaction, je fais une vente quoi. Parce que si elle arrive tous les 36 du mois, c'est l'enfer quoi.
Voilà, il y a ça. Et puis c'était, pour moi c'était pas du concret quoi. C'était un peu comme du virtuel catalogue. À l'époque c'était un peu comme du virtuel. Et du coup quand j'ai eu l'opportunité de faire représentant, là je me suis régalé parce que j'avais ce sentiment de liberté. Je prenais ma bagnole, j'avais le sud-est, et ben il fallait aller chasser des clients en B2B, donc des professionnels pour
toujours dans le vêtement.
Ouais. Mais alors c'était des marques inconnues, c'était des marques qui commençaient de zéro, et c'était vraiment des produits difficiles à vendre quand on, avec le recul, on
y repense. Ces produits qui étaient pas très quali.
Non, c'est pas une histoire de qualité, c'était une histoire que c'était des produits qui démarraient, donc il y avait pas de notoriété. J'ai jamais eu de produit à notoriété de toute façon à vendre, et c'est toujours parti de zéro.
Mais alors ça c'est épatant, parce que arriver à vendre un truc qui n'a pas de notoriété dans un magasin local, enfin faut qu'il y ait un rapport qualité-prix. Après les mecs en face de toi, ils connaissaient le vêtement, donc peut-être que si c'était quali ça passe, mais
c'était après je trouvais, j'avais des arguments. Il y avait des fois la première carte c'était made in France, c'était fabriqué à Troyes, on faisait des tops en méril, mais bon voilà, c'était pas évident. Et c'est vrai que et l'anecdote qui est sympa, c'est que cette carte que j'avais pris, il faut savoir que quand je l'ai pris en cours de saison, cette même carte, elle avait été donnée à un représentant qui était hyper connu dans la région,
ouais,
et qui était bien plus senior que moi, et en âge et en professionnalisme.
Ouais.
Et c'est vrai que cette carte, après quelques semaines, il avait fait zéro. Alors, est-ce qu'il avait vraiment montré? Est-ce qu'il avait pas montré? J'en sais rien. Je lui ai jamais demandé. Et du coup, moi, en quelques temps, en quelques semaines, j'ai réussi à faire du chiffre d'affaires. Donc, les mecs, ils étaient surpris. Ils étaient surpris parce que ils voyaient des bons de commandes arriver tous les jours. À la limite, ils avaient même pas le stock pour livrer, quoi. J'ai toujours vendu en temps réel un peu les stocks. J'ai jamais vraiment travaillé sur des précommandes, des précollections. Et du coup, ben ouais, moi j'étais heureux parce que tant que je prenais ma bagnole et je me barrais, j'étais content.
Ouais. Toi, c'était ce sentiment de liberté, voire odeur sur la route, quoi.
Ouais, exactement.
Et à l'époque, là, parce que ça, c'est quand même une époque. Ça existe encore les 98.
Représentants? Bah oui, on en a plein.
Ah ouais. Alors, 98 champion du monde. Alors c'est une belle année, ça.
Ouais. Bah oui, c'était ça. J'avais 20 ans quand j'ai commencé.
Sur la route, champion du monde, la liberté, c'est trop cool. Et donc ça existe encore. Donc toi, tu en as encore, mais
c'est différent. Ils font moins de routes comme on le faisait à l'époque en termes de prospection.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens quand même pour connaître un peu les clients, pour les. Il faut faire de la route quand même, mais c'est moins. On reçoit plus les clients en showroom.
Ouais.
On a une data de clients quand même qui est constituée. On peut avoir des outils pour rechercher des clients différemment aujourd'hui avec Internet ou des logiciels.
Donc, mais aujourd'hui, on marche beaucoup plus en saison. Alors que là, j'ai l'impression qu'à l'époque, t'allais en magasin, tu prenais la commande et tu livrais la semaine suivante. Hein,
oui,
c'était presque ça, quoi.
Oui, mais c'était aussi de la saison.
Ouais.
J'allais en avril, je vendais de l'été, et en novembre, je vendais de l'hiver.
D'accord.
Donc, nous, aujourd'hui, American Vintage, ça n'a pas vraiment changé. On est toujours sur des circuits courts.
Ouais, vous êtes capable de livrer
tout le temps. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait ça. C'est que j'ai grandi que dans ces méthodes-là. Donc je n'ai connu que ça, et c'est vrai que pour moi, quand c'est trop long terme, limite c'est là où j'ai un peu plus peur. Au plus c'est court terme, moyen, je suis plus à l'aise, même s'il faut prendre plus de risques. Mais du coup, ça me fait moins peur que l'inconnu du très long terme.
Ouais. Donc là, tu fais ça, tu fais ce métier pendant combien de temps?
Je fais ça pendant deux ans et demi. On va dire, bon, la première carte que j'ai eue, la boîte était vraiment petite et ça a pas tenu. En parallèle, vu que j'avais fait des bons scores, la personne en question avait pris la représentation d'une autre marque sur la France, et du coup il m'a gardé pour le sud-est. Et là je vendais de la maille, une boîte sur Paris qui était dans le sentier à l'époque. Et du coup, je suis resté donc l'agent sud-est. Pareil, donc là, c'était des produits qui étaient mieux quand même, franchement. Je recevais tous les matins à la maison les fax sur les états de stock, parce qu'il fallait quand même que je vende
ce qui était
disponible.
Stock, ouais.
Et comme c'était une boîte qui était au sentier, donc ils vendaient aussi au tout venant. Donc ça, c'était...
Ouais, ça bougeait vachement. Ouais.
Et puis c'était pas trop prévu dans les accords des fois, mais bon, ils vendaient au tout venant.
Ouais.
du coup, les stocks bougeaient. Donc, tous les matins, moi, je devais recevoir les stocks. C'était important pour savoir quoi vendre.
Ouais.
Donc, je faisais déjà mon tri sur mes stocks, mes produits, quoi sortir, comment le merchandiser avec ma valise hein, et mes racks. Et du coup, ça, pareil. Donc, ça, là, pour le coup, j'avais très, très bien bossé. Mais j'étais un des seuls représentants en France à m'être adapté à ce système du court terme, de vendre au jour le jour, de recevoir des stocks. Du coup, j'étais le seul agent vraiment en France sur le réseau que le directeur commercial avait mis en place à faire apporter du chiffre et avoir des résultats. Du coup, j'ai senti que ça allait pas continuer parce que la boîte au sentier, eux, ils respectaient déjà pas les règles. Et si en plus j'étais le seul des agents à avoir des résultats, ça va pas tenir, quoi.
Bah ouais.
Je sens que ça allait, j'allais me prendre un coup de pied. Enfin, pas moi directement, mais le directeur commercial. Du coup, j'ai anticipé le coup et j'ai rencontré un gars sur Marseille qui lançait, qui créait une marque de pantalons. Et je le connaissais de vue. Et du coup, cette personne, je l'ai démarché. Et il démarrait à peine. Et il s'est renseigné sur moi. Il a pris quelques renseignements. Il a eu un week-end de réflexion. Et le lundi, il m'a contacté pour me dire OK, on démarre. Et j'ai vécu avec lui deux belles années où on a fait un travail de zéro à un travail formidable en deux ans et demi. Et voilà. Et au bout de ces deux ans, bah, moi, je m'étais investi vraiment comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire que j'étais quasiment exclusif. Et je m'occupais des ventes, je m'occupais du produit, je m'occupais des prods, je m'occupais de tout après.
Ouais.
Et j'étais VRP. Donc, je pouvais être VRP multimarque, mais en vérité, je m'étais rendu de fait un peu VRP exclusif parce que j'étais à fond, quoi.
Ouais.
Et j'avais pas, et je travaillais très bien. Bon, après, voilà, c'était pas évident parce qu'on est payé au lance-pierre quand on est représentant. Mais bon, j'étais heureux.
On prend des coms quand même, non? Quand on est représentant.
Moi, je gagnais très bien ma vie, mais ouais. Les frais étaient à ma charge. Et du coup, en vérité, je vivais sur un compte. Donc du coup, à compte, tu dépenses, tu voyages, je faisais tous les jours, en moyenne, je faisais 400 bornes par jour, quoi.
Ouais.
Donc ça, quand tu pars en Corse prospecter, quand après je suis parti dans le sud-ouest, donc entre les hôtels, l'essence, les péages, tu as besoin d'un fonds de roulement. Mais quand tu as qu'une carte et le temps que ça se mette en route, oui, je gagnais très bien ma vie, mais j'avais pas non plus les moyens de mettre ne serait-ce que 200 balles de côté, quoi. C'était pas possible. Et après venait l'échéance des impôts et j'étais même raide parce que c'était sur le N-1 et l'argent il était plus là, quoi. Donc du coup mais j'étais bien, j'étais jeune.
Mais t'étais content, t'étais heureux, tu
très heureux.
Ouais,
j'étais très heureux.
Mais t'as toujours été très heureux.
Oui,
ouais.
Ouais, ouais.
Non, mais t'es un optimiste comme
toujours. Ouais, ouais, toujours.
Non, mais souvent les entrepreneurs que je croise, j'ai l'impression que c'est des gens quoi qu'il arrive, ils sont heureux, quoi. Parce qu'ils
on est anxieux, mais.
Ouais, mais ils voient pas, enfin, ils ont, comme c'est des optimistes, ils oublient vite les galères, quoi.
Non, mais en fait, on apprend et on avance, et au contraire, c'est une chance.
Ah ouais.
C'est une chance de pouvoir essayer d'être libre et de créer, de développer. Après, enfin voilà, moi je veux dire, quand on regarde mon parcours et est-ce que c'est aujourd'hui American Vintage, 800 salariés, t'as envie de te dire, Coco, t'as de quoi être fier ou content de tout ça. Et puis ton moteur, c'est pas combien je vais faire ou combien je vais gagner. Ton moteur, c'est le challenge, c'est le développement. Moi, enfant, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Des petits, j'étais en club, donc l'esprit de compétition, les championnats, c'était tous les week-ends. Partir en Espagne, Toulouse, Paris, dormir dans les familles, dans les tournois, moi j'ai grandi comme ça.
Ouais.
Donc à l'âge de 5-6 ans, j'étais déjà tout le temps la journée en bas avec les copains, jouer du matin au soir, c'était.
Et tu jouais pour gagner en plus, hein.
Ben on jouait pour gagner, bien sûr. Et en championnat, pareil. Et puis après c'était des stages dans des centres de formation, des trucs comme ça. Donc il y a eu toujours cet esprit de compétition, mais c'était sain. C'était pas par rapport à aujourd'hui où le foot chez les jeunes a beaucoup évolué, le foot business, l'argent et tout ça. Nous, c'était quand même plus sain. C'était on voulait gagner.
C'était juste pour la beauté de gagner, quoi.
Voilà, on n'était pas là à tuer ou à soudoyer ou autre chose pour gagner, quoi. On avait quand même la loyale. Tu gagnes, tu perds. Du coup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que, encore une fois, avec le recul, que ben c'était génial, que mes parents ils avaient signé à l'âge de 5 ans parce que j'étais foot. Pas, je veux dire, je me rappelle, j'avais 4 ans et un Noël, mon père il m'avait acheté un ballon Azteca qui était le ballon Adidas mythique de la Coupe du Monde, je crois, ou de la Coupe d'Europe 84, un truc comme ça, ou 82, parce que je devais avoir 4 ans, je crois, ouais. Et du coup, je me rappelle que ce ballon coûtait une fortune, genre, je sais pas moi, je vais pas dire de bêtises, mais 200, 300 francs à l'époque. Et j'avais eu ce cadeau pour Noël et je dormais avec, je le caressais et dans la maison, il allait que sur les tapis de peur de l'abîmer. Donc, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et du coup, c'est vrai qu'on vivait que dans ce côté, on était passionnés, quoi. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir très tôt, de m'avoir mis dans un club qui m'a permis de travailler l'esprit collectif, l'esprit de compétition, le challenge, et tous ces éducateurs qu'on a eus qui étaient des personnes formidables, qui s'occupaient de nous, des parents qui venaient quand on partait. Donc franchement, c'était génial. C'était génial. Alors c'est vrai que à ce moment-là, on se disait toujours... Waouh, les étés, ils étaient longs, hein, à rester en bas, à jouer au ballon, il faisait chaud, on attendait, on partait pas en vacances, tout ça, on se disait toujours, c'était très long. Mais avec le recul encore, aujourd'hui, tu te dis, c'était bien. Quand on voit nos enfants aujourd'hui, ou comment ça se passe, et comment ça évolue, bah, finalement, avec pas grand chose, on était très heureux.
Ouais.
Très, très heureux. On voulait toujours ce qu'on n'avait pas. Peut-être, mais ça, je pense que c'est humain.
Et c'est ce qui fait avancer, ce qui t'a fait avancer aussi.
Exactement. Et moi aujourd'hui, je le vois dans le travail, dans ma vie. Finalement, t'as envie de
plus.
T'as toujours envie, finalement, tu veux aller chercher le caviar. Et quand tu goûtes au caviar, tu te dis, finalement, je suis bien avec un bout de pain et une tomate, quoi.
Ouais, alors ça,
mais
c'est
il faut avoir cet esprit d'aller chercher toujours plus loin, plus haut.
Mais c'est cool de pouvoir avoir les deux.
Exactement. Il faut apprécier, mais il faut avoir cet esprit parce qu'on est quand même dans un monde où c'est quand même la jungle, il y a une vraie compétition et pour être libre, il faut avancer.
Justement, la jungle, revenons-y. Donc là, cette marque de pantalon, là, tu le fais pendant 2 ans, 2 ans et demi, et qu'est-ce qui se passe derrière?
Waouh. On va rappeler les vieux démons là.
Ouais.
Il se passe que j'ai eu un deuxième déclic dans ma vie, c'est une personne qui m'est proche et qui est personne âgée. J'ai beaucoup appris moi des seniors.
Ouais.
C'est beaucoup les seniors qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, parce qu'ils ont vu en moi certainement, ils se sont revus ou ils ont vu d'autres personnes ou ils ont, je sais pas, ils ont eu des visions et ils m'ont guidé à me faire prendre conscience, confiance que bah, ce que je fais, je pouvais peut-être le faire pour moi, que si, que ça, alors que tu te dis non mais enfin de quoi tu parles, j'ai même pas équivalent de 500 euros ou 1000 euros de côté, je peux pas créer une boîte et j'ai pas de sourcing et blablabli blablabla. Donc et en fait c'est vrai que il y a eu un déclic, une personne qui m'a fait prendre conscience de créer ma boîte et que finalement j'avais le plus important et que trouver du sourcing et demain faire des collections c'était pas le plus dur. Pour moi c'était même pas pensable, c'était insurmontable. Et petit à petit j'ai commencé à le mûrir et là je me suis dit bon bah ok hein, je Donc j'ai cherché à faire en parallèle des pantalons pour pas faire compétition, hein, concurrence. C'était de la maille. Donc j'ai dit si je dois faire quelque chose de complémentaire, c'est de la maille. Et puis la vraie première carte que j'ai eue où j'ai pris du plaisir, c'était de la maille. Et là je suis parti en recherche d'usine pour essayer de trouver une usine qui puisse être capable de m'apprendre et de me donner le crédit et la possibilité de produire. Et voilà, donc j'ai commencé un peu à mener mes enquêtes, mes recherches, et ces choses que j'ai réussi à trouver après prospection. Donc j'ai dû prendre pareil, hein, comme j'allais chasser pour aller vendre à des clients des collections, ben là j'ai été en amont essayer de trouver du sourcing auprès d'usines spécialisées dans la maille. Et j'en ai trouvé après plusieurs semaines de recherche, j'en ai trouvé une qui, avec le temps, hein, c'est pas fait du premier jour à la rencontre, mais j'ai insisté, j'ai jamais lâché. Je pense que une des qualités qu'il faut avoir pour entreprendre est toujours cette tenace tout le temps. Et c'est vrai que ça a payé, donc du coup, j'ai pu avoir la chance de que quelqu'un me dise ok, on va essayer, on va tester et puis on verra bien. Et là, j'ai baigné quelques jours, une semaine, 10 jours dans l'usine pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne le tricot et comment comment ça se met en route et ça se confectionne.
Qu'est-ce que t'as compris?
Les fils au départ, les machines, tricotage, confection, remaillage, toutes ces choses-là, quoi.
Là, c'était où ça? C'était en France encore?
Ouais, c'était en France, à Clamart.
Clamart.
Pas très loin de Paris, en région parisienne. Mm. Et du coup, j'ai appris ça et j'ai commencé à faire une collection. Et du coup, j'ai...
Il y avait quoi, combien de pièces dans la collection?
Ouais, c'était léger au début, il y avait moins de 10 pièces, une dizaine de modèles.
Que du tricot?
Ouais, que du tricot. Bah, je vendais des pantalons et j'avais une bonne collection de pantalons, donc... Mm. Pour moi, en plus, à ce moment-là, c'était je crée ma boîte qui devait devenir agent co au global des pantalons et en même temps pour moi-même, quoi.
Et ça, t'en avais parlé à ton collègue?
Bah ouais, j'en avais parlé, bien sûr. On avait tapé dans la main. Donc, comme c'était un pote et presque un grand frère, on s'était tapé dans la main et pour moi, c'était suffisant. Ça s'était pas vraiment passé comme ça, mais bon. Et du coup, Donc du coup, petit à petit, ça, le projet commence à se mettre en route.
Donc là, ça veut dire que tu fais la collection, tu produis quoi, 30 pièces de chaque et tu vas...
Non. Donc là, c'est septembre 2001, je crée la boîte.
Septembre 2001. Bon timing,
ouais,
ok.
Ouais. Septembre 2001, je crée la boîte. Et on va dire que au même moment, j'avais commencé à faire la collection, donc j'étais déjà en retard sur l'hiver. Du coup... on va dire blind, j'avais commencé limite à lancer en production avant de vendre. Et j'avais été voir mes quelques clients importants et dont un ami qui lui a été le premier. J'ai été le voir avec cette mini collection et on va dire pour me féticher, il m'a passé une jolie commande. Donc ça m'a donné confiance. Et
c'est quoi une jolie commande?
Bah à l'époque, sur les 10 modèles que je lui avais montrés, il m'avait peut-être passé l'équivalent de entre 350 et 500 pièces.
Ah ouais, c'est pas mal.
Ce qui était énorme pour un magasin, quoi. Et du coup, moi, par rapport à ça et quelques clients que j'ai vus, je me suis projeté. Et voilà, et j'ai créé la boîte, j'ai commencé à lancer en production sur cette mini collection, donc j'ai dû faire du stock. Et en même temps, j'ai pris un petit local. J'ai ma sœur qui a démarré avec moi et elle s'occupait de la logistique, de l'administratif et moi je m'occupais des produits, d'aller les vendre. Donc voilà, donc je en parallèle des pantalons, je vendais mes pulls. Le truc c'est que septembre 2001 quand j'avance bien sur le projet, mon employeur qui était vraiment un monsieur proche hein, à cette époque-là, il m'avait tapé dans la main, mais effectivement, quand il a vu que le projet, vraiment, il allait se concrétiser, il a eu une démarche où il a voulu rentrer associé avec moi et je lui ai évidemment refusé. Et il a pas supporté. Donc du coup, à ce moment-là, dès que je crée ma boîte, il s'en est servi comme outil pour me licencier.
Merde.
Ouais. Donc là, c'était... Waouh. Là, tu te dis, tu commences à développer un truc avec quelqu'un, ça fait 2 ans et demi... Tu gagnes correctement ta vie, tu essayes de faire en parallèle quelque chose où le mec il te tape dans la main, tu te dis c'est bon. Tu vois, c'est limite c'était comme mon grand frère, donc
d'avoir. T'avais confiance à mort, à mort quoi.
Bah ouais, plus que ça. Et en fait, pendant 4 mois, il m'a fait la misère. Il m'a vraiment fait la misère pendant 4 mois. Je suis obligé à 23 ans de me retrouver devant des avocats, des trucs sur ce que je découvrais quoi. Et c'était dur. En pression, en même temps, au même moment où tu crées ta boîte, tu sens que tu vas perdre ton emploi, tes revenus, tu te dis tu sais pas où tu vas, dans l'inconnu, j'avais ma sœur avec moi, donc qui avait des enfants, donc je me dis waouh.
T'as des responsabilités. Ouais.
Voilà, donc finalement, ça a duré quelques mois de discussion pour finir, il m'a licencié. Et c'était un mal pour un bien, hein. Mais sur le moment, tu le vois pas comme ça. Et voilà, et après, là, j'étais...
Mais juste une question assez naïve. Pourquoi t'as refusé qu'il rentre? Tu voulais rester chez toi?
Non, parce que cette personne-là, j'en avais peur. J'en avais peur parce que la manière comment il gérait sa boîte... moi, j'étais un simple VRP, même si on était très proche chez lui. Et pour être transparent, j'avais construit vraiment tout le business de A à Z en termes de développement commercial, stratégie. Et à l'arrivée, des fois, on chipotait sur des trucs, sur des commissions, et j'ai envie de dire, lui, il menait une vie un peu de de prince qui n'en avait pas les moyens. Du coup, il était pour moi pas pensable de le faire rentrer sur mon projet pour qu'il prenne, qu'il me bouffe, quoi. Mmh. Il m'aurait bouffé et, et clairement, il m'aurait bouffé et en plus de ça, il était pas du tout gestionnaire, quoi.
Mmh. Et puis la réaction qu'il a eue, clairement, c'était la bonne, c'était la bonne, la...
Ouais, non, mais moi, honnêtement,
c'était ce qu'il fallait faire, quoi.
Mmh. Oui, mais à la limite, c'était plus pour moi un danger que, ouais.
Qu'autre chose.
Qu'un partenaire.
C'est clair. Ouais.
Donc, j'ai préféré essayer de lui faire entendre, écoute, moi, je me suis donné à fond pour ta boîte. Je suis pas associé avec toi et c'est normal, c'est ta boîte. Maintenant, avant que je crée la mienne, je t'ai demandé ton accord, ton aval. Tu m'as tapé dans la main. Limite, tu m'as donné ta bénédiction. Ça me suffisait. J'avais pas écouté à cette époque-là mon avocat qui m'avait vraiment demandé de lui faire un écrit. Je lui avais dit, mais c'est pas la peine. C'est mon pote.
Je fais confiance.
J'ai pas besoin d'écrit. Et ben, j'avais eu tort. Et voilà. Donc après, ben, à partir de décembre, il m'a vraiment licencié. Du coup,
comment ça se passe là? Parce que là, t'es...
Bah là, tu galères un peu quand même. Donc tu te dis, waouh. Donc on a eu un petit arrangement à l'amiable et tout ça quand même. Mais bon, bah là, en plus, ça arrivait l'été. L'été, vendre des pulls dans le sud-est.
Il faut se lever tôt, ouais.
Voilà. Donc j'avais pas de sourcing pour faire autre chose que des pulls à ce moment-là. Et voilà, et là, du coup, l'histoire, elle démarre 2001, fin 2001, 2002, 2003, 2004.
Mais en plus, le marché, c'est un peu compliqué aussi, suite aux attentats.
Ça a jamais été simple.
Ouais.
Moi, de toute façon, c'est parce que, voilà, génération, ceux qui sont nés entre 75, 80, je pense, à partir de...
C'est la crise depuis toujours, ouais.
Ouais, quand même.
Non, mais c'est vrai. Ouais, mais depuis 73, non, c'est la crise.
Voilà, donc je pense que... Non, 73, non, moi je...
Non, mais il y avait le choc pétrolier, mais...
Ouais, mais bon...
C'est mon père, il me dit toujours, de toute façon, moi j'ai toujours connu ce pays en crise, depuis le premier choc pétrolier, c'est la merde.
Moi je vois mon père dans les années 75, j'étais pas né, il a eu de belles années dans le commerce.
Ouais, je pense, ouais.
Ouais, non, il y avait pas trop de... Les Leclerc, les Auchan et...
Ouais, il se mettait bien.
La compagnie, ça commençait... Non, il y avait du potentiel, les gens étaient moins avertis, donc... Puis les gens, ils travaillaient, enfin, la vente par correspondance, le porte-à-porte, les commerces de proximité dans les quartiers. Il y avait, c'était pas que les centres-villes. Donc, non, il y avait du potentiel. Alors après, c'est vrai que si on doit comparer à aujourd'hui, moi j'aime bien dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, même moi, quand c'était en 98, quelqu'un qui avait une réussite en France, c'était un roi. Quelqu'un qui avait une réussite régionale, c'était un prince. Et aujourd'hui, tu as une réussite en France, t'es rien, quoi. C'est la mondialisation a fait que l'Europe, c'est un pays. Donc, mais par contre, ça donne des opportunités. Donc, c'est peut-être plus dur, mais il y a aussi plus d'opportunités. Et le digital, l'internet, l'euro, ça nous a quand même permis à dire, ok, il y a peut-être des difficultés en France, mais on peut aller voir aussi chez nos voisins comment on va essayer de s'exporter, comment on va essayer d'ouvrir un peu, se servir de cette libéralisation des frontières et tout ça pour développer.
Donc la maille, là, ça dure quand même 4 ans avant le démarrage de American Vintage. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 ans?
Ouais, non, pendant ces 4 ans, il se passe que je fais de la maille, il se passe qu'après, je vais produire en Italie, je fais du t-shirt, après je vais au Portugal, après, il se passe que je me cherche. Il se passe que je me cherche et entre 2001 et 2005, février 2005, où American Vintage est né, ben, j'ai eu un deuxième déclic, on va dire, qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a mis un petit coup de pied au cul. Et c'est une personne qui a vu en moi aussi, pareil, hein, que précédemment, mais qui m'a mis un autre coup de pied au cul pour me dire, faut bouger, faut voyager. Faut voyager parce que ta vision, ton business et ta vision, elle dépend trop du sud.
Du local, ouais.
Et limite un peu régional, France, mais maximum. Ouais. Du coup, il faudrait essayer un peu de bouger, de voyager, ça va t'ouvrir l'esprit et tu verras les choses différemment. Ouais. Et c'est ce que j'avais commencé à faire. Alors au départ, c'était pas évident parce que ces premiers voyages, je les faisais aux États-Unis. C'était pour moi des investissements importants, avion, hôtel et compagnie. Et au début, tu te dis waouh, j'y vais, mais ok. Et voilà. Et je me suis pris à ce jeu et c'est ce qui m'a permis de prendre conscience effectivement que les voyages m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit. Les États-Unis, c'était le premier pays vraiment où j'ai commencé à bouger. Et c'est vrai que l'Amérique, elle m'a renforcé le côté optimiste que tu disais tout à l'heure sur les entrepreneurs Et c'est vrai que les Américains, sur ça, c'est vrai que l'Amérique, ça a été, waouh, c'est le pays de la consommation ou de la surconsommation. C'est le pays où tout est possible. Et là, du coup, moi, j'arrive quand même avec une mentalité un peu française et je prends une claque, quoi. Et ça m'a aidé, ça m'a permis d'ouvrir un peu l'esprit, ça m'a permis de se dire, waouh, finalement, notre région ou notre pays, c'est peut-être qu'un arrondissement du monde. Et,
Mais c'est le plus bel arrondissement du monde, quand même.
Oui, mais bon,
Non, mais c'est sûr.
Pas le sujet à l'époque.
Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair.
Le sujet, c'était d'essayer de s'ouvrir et de comprendre que si on va plus loin que nos,
que le bout de son nez,
notre zone de confort.
Bien sûr.
Si on en sort un peu, on peut gagner beaucoup, quoi. Mm. Sur la vision, sur plein de choses. Mm. C'est ce qui s'est passé. Les voyages m'ont permis de faire évoluer mon produit, m'ont permis de faire évoluer ma vision, m'ont permis de plein de choses. Et du coup, ça s'est ressenti dans les collections à partir de 2003, 2004. Et c'est là où je me suis dit, finalement, le virage que je suis en train de prendre, il faut que je change de nom de marque, ça colle plus. Mm. Et c'est pour ça qu'American Vintage est né, en tout cas en discussion, en off, en fin 2004.
Parce que la marque s'appelait Anna Paola.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'était qui? C'était Anna Paola.
Oh, sur... c'est une histoire. Quand on cherche un nom, on est avec des copains et il y avait une amie qui m'avait raconté une petite histoire sur une petite cousine à elle qui était brésilienne adoptée. Voilà, donc j'avais dit ok, je cherche un nom, aide-moi. Et l'histoire m'avait plu. Voilà, c'était ça, mais c'était rien de. C'était rien de.
Et American Vintage. Alors parlons de nom. American Vintage, ça vient d'où? C'est pas mal comme.
American Vintage, c'était justement à ce moment-là, en fin 2004, où tu te dis il faut que je change de nom. Mm. Ça colle plus du tout, ça va plus et c'était la période où les États-Unis m'avaient beaucoup apporté et c'était vraiment à ce moment-là le vintage qui était
porteur. Ouais.
Qui était porteur. Mm. Et du coup en parlant avec mon cousin à Los Angeles, on s'est dit essayons de faire une dédicace sur l'Amérique et le vintage et soudainement il m'a dit American Vintage. Et au début, on en a échangé, on en a débattu. C'est vrai qu'à cette époque-là, l'Amérique et tout ça, c'était non plus avec Bush et compagnie. Tu vois, tu te dis.
Ouais, c'était moins sexy que.
C'était pas Elvis, quoi. 80, ouais. Quoi. Donc, et finalement, je suis rentré, j'ai vérifié savoir si le nom était disponible. Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça. Mmh. Alors, c'est vrai qu'au début, les collections, elles étaient vraiment plus américaines. Ouais. Beaucoup dans le t-shirt, beaucoup de très vintage, beaucoup de broderie, de print. Il y a quelque chose de très américain quand même au début, sur la première saison. Et un premier salon, février, janvier 2005, au Who's Next. Donc gros succès. Mais on a livré les clients et du coup, les taux de sortie en point de vente étaient faibles. Parce que il n'y avait pas quelque chose de nouveau. C'était sympa, c'était cool, c'était bien. C'était des beaux t-shirts bien lavés, bien sérigraphiés, bien brodés, bien printés, tout ça. Mais on va dire que c'était un peu, on pouvait retrouver ça ailleurs.
C'était un peu plat. Ça manquait d'aspérité et d'identité, quoi.
Il n'y avait pas d'identité, exactement. Ouais. Il n'y avait pas une signature où tu pouvais te dire, il y a quelque chose de nouveau et tu peux te l'approprier. Mmh. Et du coup, c'est vrai que moi, venant du terrain, c'est ce que j'ai vite ressenti. Et à cette époque-là, avec ma styliste qui était en contrat d'alternance école travail à ce moment-là, je lui avais dit écoute, il faut qu'on prenne un virage différent, il faut qu'on essaie de féminiser le coton, qu'on essaie de féminiser le t-shirt, qu'on garde cet esprit de ces mains qui sont pas mal bien lavées, on dirait de la soie et tout ça, mais peut-être qu'il faut essayer d'emmener un peu la French touch là, un peu un côté moins américain et quelque chose de plus européen, plus
fluide,
glamour, plus fluide, plus sensuel. Pour le coup, les Américains, ils savaient peut-être pas trop faire à ce moment-là. Et finalement, donc on a démarré ça sur l'hiver 2005. Donc on a travaillé sur des t-shirts, des robes, des tuniques, des détails un peu bohémiens, des fronces, plein de petites choses comme ça sur les t-shirts, les robes et tout ça. Et c'est vrai que c'était nouveau. C'était nouveau avec des matières sympas, des couleurs, des lavages. Et là, ça a commencé, on va dire, à... Pareil, on fait les salons. On fait surtout aussi le salon de Bread and Butter. Je crois que c'était... pas dire de bêtises, mais c'était aussi à Barcelone. C'était peut-être le premier salon à Barcelone qui faisait. Ou alors c'était après. Je crois que c'était à Barcelone. C'était à Barcelone en 2006, on a fait, je crois, pas dire de bêtises. Et ça. Et du coup, là, je sens que on arrive à prendre des prises d'ordre chez les clients, on livre et il y a des réassorts. Et là, ça commence un petit peu à il y avait quelque chose, vraiment, c'était les prémices de quelque chose, quoi. Donc, hiver 2005, et du coup, sur l'année 2006, là où vraiment on a commencé à trouver notre signature, sur l'été 2006, puis ensuite hiver 2006, où sur l'été, on a apporté des voiles de coton, on a un petit peu commencé à enrichir notre offre, et là, ça a commencé un petit peu à décoller. Donc, la boîte, la marque, elle a vraiment démarré à partir de 2006.
Donc là, t'étais vraiment sur un modèle wholesale à fond. Ah oui, on fait les salons, ça cartonne tout, enfin assez rapidement, pas la première saison, mais la deuxième saison. Et là, tout de suite,
première saison, ça avait cartonné en termes de.
Mais pas en sell-through. Ouais.
Mais après, en sell-through, c'était moyen.
Ouais. Mais ça représente quoi en chiffre d'affaires? C'est quand même une époque. C'était
en 2005.
Quoi, j'ai l'impression.
Si mes souvenirs sont bons, j'arrive à faire 1,5 million.
Première année.
C'est mais énorme. Bon, j'avais déjà,
t'avais bouffé ton pain noir pendant 4-5 ans.
Ans, voilà. Ouais. Et puis avant ça, j'étais 2 ans et demi représentant, et avant ça, j'étais 2 ans vendeur.
On part pas de zéro. Ouais. Non mais c'est vrai. Bah on part jamais de zéro, c'est pas vrai.
Ouais.
D'ailleurs, toi,
entre 2005, 1,5 million, et quand j'ai commencé en 97, il y avait déjà 7 ans, quoi.
Tu as connu, toi, d'expérience, des gens qui ont cartonné la première année alors qu'ils avaient jamais rien fait avant? Ça n'existe pas. Rassure-moi.
Si, rien fait avant.
Ouais. Non, c'est rare quand même.
Non, c'est rare. Ça existe quand même, mais on va dire qu'il y a des histoires qui cartonnent vite. Mais c'est les personnes qui sont là, elles ont certainement fait beaucoup d'histoires dans leur vie aussi. Après, il y a des choses, oui, qui, je sais pas, mais.
De mémoire, tu te rappelles des trucs qui t'ont marqué, qui te dis putain ils ont.
Il y a des produits qui ont cartonné rapidement, tu te dis waouh c'est improbable, mais les gens ils sont là quoi, ils avaient déjà du réseau, ils avaient des clients, du sourcing, c'est pas voilà, rares sont les produits qui même les gens qui démarrent à peine et ça et puis je pense que c'est pas bon.
Oui.
Je pense que c'est pas sain.
Je crois. Ouais.
Donc c'est vrai que nous on croit que ça allait vite, on croit que. Mais il y avait déjà quand même 7 ans auparavant où j'avais commencé déjà
à développer ton réseau, sourcer, etc.
Non, ça c'est venu bien après. Mais c'est à partir de 2001, enfin même en 99, où j'ai commencé à développer mon réseau de clients. Parce qu'à partir de 98, début 99, où j'ai commencé représentant.
C'est-à-dire que, ouais. C'est-à-dire que quand t'étais au Bread and Butter ou à Woosnex, etc., quand t'étais sur ton salon, les mecs qui passaient devant, ils te connaissaient déjà de visu. Ils savaient qui tu étais.
Non, parce que j'ai jamais eu de marque forte.
Ouais. Okay.
Moi, quand on faisait les salons, déjà, quand j'étais représentant en 99, 2000, 2001, déjà, on faisait pas le Who's Next, on faisait le prêt-à-porter féminin à Paris. On faisait jamais les salons étrangers et on était dans un univers féminin. Et du coup, les clients, honnêtement, ils venaient, enfin, on les chassait quoi. On ne faisait pas de pub, la marque était pas connue vraiment. Après, c'était le bouche à oreille entre commerçants, quoi. C'était comme ça. Donc, du coup, non, les gens, quand j'ai fait le Who's Next en janvier 2005, j'étais inconnu.
Alors, raconte-nous les différents milestones. J'aime bien utiliser ce mot-là. Milestones de American Vintage, parce que depuis cette première saison jusqu'à aujourd'hui, il s'en est passé des choses quand même. Enfin, c'est devenu une boîte, enfin, 800 salariés, c'est énorme. À l'époque, t'es tout seul avec ta sœur et aujourd'hui,
en 2005, on est 3-4.
Ouais. Ce qui est déjà pas mal.
On était,
hein.
Ouais, 3.
Faut les assumer, hein, les 3-4 ouais, personnes.
3. Et, ouais, c'est beaucoup de déménagements. C'est beaucoup de déménagements. Parce qu'on a toujours fait, nous-mêmes, la logistique des mouvements, des flux de marchandises en sortant. Et
comment ça? C'est-à-dire que tu...
C'est-à-dire que dans mes bureaux, je recevais mes stocks et on expédiait le client directement.
La plateforme, c'était le bureau.
Ouais, la plateforme, c'était le bureau. Donc, on était en étage à l'époque. On était en étage dans le sentier à Marseille.
Il y a un sentier à Marseille.
Ouais.
Ok.
Il est plus petit qu'à Paris, évidemment.
Mais... Ça s'appelle le sentier aussi.
Non. Non, non, c'est, on va dire, on l'appelle le sentier parce que c'est un peu comme le sentier à Paris. Mais moi, j'avais pas commencé là-bas quand j'ai créé la boîte en septembre 2001 parce que je pouvais pas, j'avais pas eu l'opportunité. Et du coup, après, en 2003, j'ai déménagé là-bas. Mais j'étais en étage parce que j'avais pas les moyens de prendre un magasin en
pignon sur rue.
Et c'était pas ma stratégie non plus parce qu'en fait, je vendais pas au tout venant. Donc venant moi d'une école de représentants où on allait chercher les clients et on sélectionnait les points de vente, il n'était pas pour moi pensable en termes d'image de vendre à n'importe qui sans connaître son magasin. Donc j'étais au sentier parce que c'était en étage une opportunité où j'ai pris un local qui correspondait à mes besoins en termes de budget, de surface, et ça me permettait aussi d'être un peu dans le cœur et du coup le bouche à oreille pouvait m'apporter à un moment donné certains clients quoi. Et 2005, donc je fais la première année American Vintage là-bas. Et quand je commence à décoller 1,5 million en 2005, en 2006, il fallait que je déménage. Donc là, je suis parti en dehors de Marseille, à Allo. Et là, je prends un bâtiment, un hangar industriel pour les entrepôts et des bureaux en mezzanine. Mais c'était vraiment en mode bâtiment industriel, quoi. Bon, pour moi, c'était pas un problème parce que j'ai mes vendeurs, mes showrooms, mes agents... C'était eux qui vendaient, ils étaient dans les grandes villes, à Paris, à Marseille, ou mes distributeurs à l'étranger. Donc du coup, ce que j'avais besoin pour le headquarter, c'était vraiment d'entreposage, stockage, pour être capable de faire la logistique. Et j'avais besoin de...
Mais t'avais les camions aussi ? Non, t'avais pas les camions quand même.
Pas à moi. Non, non, les camions, ils venaient, ils chargeaient, ils déchargeaient.
Non, mais quand tu dis que tu gères la logistique, tu gères la plateforme logistique, mais tu gères pas le camion non plus, quoi.
Bah, on gérait les transporteurs. Ouais. C'est nous qu'on appelait les transporteurs en fonction des destinations. D'accord. Mais non, c'était pas heureusement qu'on fait pas du transport.
Ouais.
Quand on gère la logistique, c'est qu'on a les employés qui piquent et packent. On a les entrepôts pour recevoir.
Et aujourd'hui, c'est toujours le cas.
Oui, c'est toujours le cas.
Ouais. D'accord. Et donc juste pour et tu me diras si c'est toujours le cas, mais c'est donc la stratégie de distribution. T'as les salons, t'as les vendeurs multicartes ou les représentants, etc.
Ouais.
Et c'est comme ça que tu te développes.
Les distributeurs, ouais.
Et après, le retail qui est arrivé plus tard.
Ouais, bien après.
D'accord.
Donc, effectivement, donc American Vintage, donc 1,5 million en 2005. 2006, on fait 7,5 millions.
Et comment t'as fait ?
Et je vous dis, c'est ce que je te dis, c'est que je viens de cette culture où j'ai travaillé, je viens du terrain, j'ai toujours travaillé sur stock. Donc, du coup, pour moi, c'était pas un problème, je sentais, donc je prévoyais les achats pour. Donc j'ai toujours travaillé aussi en proche import.
Proche import, ça veut dire quoi ? C'est l'Europe,
c'est la zone euro, c'est le Maghreb ou la zone Europe, quoi. Donc c'était pas la Chine. Donc du coup l'idée c'était en fait une des clés du succès, c'est clair, c'était un peu aussi ça, c'était de vendre. On vendait le dernier par rapport aux marques. Et on livrait les premiers parce qu'on faisait le stock. Donc on n'attendait pas d'avoir les commandes pour faire nos achats, d'accord ?
Mais ça te fait prendre un risque de malade.
Mais c'est ce qu'on a. J'ai toujours fonctionné comme ça.
Ouais, donc toi, t'as ton état, enfin ton esprit,
il a été formaté.
Il est formaté comme ça.
Ouais, c'est mon école.
Ok.
Ça a toujours été formaté comme ça. Donc du coup, limite, c'était chaque saison, tu gambles, tu fais.
Tapis. Ouais, c'est.
Tapis.
Ouais.
Chaque saison, c'est ça.
Mais c'est hyper risqué, hyper dangereux quand même.
Oui, mais c'est comme ça. Je veux dire, voilà, c'est quand tu grandis, tu es éduqué comme ça, tu limites, j'avais moins peur de ça que l'inverse.
Ouais. De pas avoir de cam à vendre.
Voilà.
Ouais.
De vendre en précommande et de partir en achat ou en production avec un portefeuille de commandes, ça me faisait plus peur.
De pas pouvoir livrer.
De rien avoir. Donc, du coup, ça me permettait aussi de faire les collections un peu plus tard. Et c'est ce qui me permettait aussi d'apporter un service aux clients. Voilà, c'était aussi un discours rassurant dans la vente parce que les clients, ils avaient pas besoin de prendre des gros risques sur leurs commandes. Ils pouvaient tester et derrière, on réassortissait, quoi. Donc, moi, mon but, c'était d'avoir des vendeurs en B2B, limite comme du retail, qui soient là 365 jours par an. Et ce qu'ils vendent maintenant, ils le livrent tout de suite. Et quand c'est livré, derrière, on les rappelle. Si ça se vend bien, on fait du réassort, on a des nouvelles choses, peu importe. Donc, du coup, il fallait mettre une brigade de... Et c'est ce qui s'est fait en France, à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on est passé de 1,5 million à 7,5 millions, parce qu'au même moment, on a réussi à créer une équipe de soldats en France et en Europe capable de s'adapter à ce système. Et moi, derrière, je leur garantissais que j'allais livrer, quoi. Donc, je prenais moins les risques. mais j'avais besoin d'eux pour être sur le terrain et vendre. Mmh.
Et ces gens, comment tu les trouves, comment tu les sélectionnes, comment tu les formes et comment tu les piques à American Vintage?
Les piquer à American Vintage, ça c'était pas le plus dur. Mmh. Parce que si t'es vendeur, si ton projet, tes trucs, tes convictions, tes tripes, après t'es bon ou t'es pas bon, point. Mmh. Voilà, donc t'es capable d'être le chef de l'armée ou t'es pas capable. C'est tout, il y a pas de juste milieu. Mmh. Et donc soit t'es un bon dirco, soit tu l'es pas. En vrai. Mmh. Après, comment les trouver? Ben, c'est pas compliqué. À cette époque-là, tu fais que t'es des bons agents qui te démarchent ou que tu démarches et que t'arrives à commencer avec eux. Derrière, quand tu vois que ça marche bien, ils en parlent. Quand tu fais les salons, t'as des gens qui viennent. Et après, c'est au feeling. Mmh. En fonction des cartes qu'ils ont, de leur taille d'entreprise, c'est au feeling. On va dire, pour être honnête, la quasi-totalité des agents ou des distributeurs que j'ai pris, si ce n'était pas par recommandation de quelqu'un, c'était au feeling. Mmh. C'était qu'au feeling. Moi, je veux dire, ma vie, elle a été ma boussole, c'était mon ventre, quoi.
Ouais.
Encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai dû développer d'une boîte, comment elle s'est construite à aujourd'hui, comment elle est. C'est vrai que j'ai dû développer en moi un côté militaire et germano... qu'on douterait, mais...
Ouais.
Mais à cette époque-là, j'étais pas très rationnel, quoi. Mmh. C'était tout le feeling.
Mmh.
Et c'est l'évolution de la boîte qui m'a obligé à développer en moi le côté un peu plus rationnel,
plus structuré. Mmh.
Bah oui, mais plus ça obligé. J'ai appris sur le terrain. Enfin, je veux dire, quand on voit mon parcours, mes frais de scolarité, moi, c'était sur le terrain. Et j'avais personne autour de moi pour me guider.
Mmh. Ouais, donc. Si, ouais. T'es obligé de mettre en place des trucs.
Partager des fois, mais en fait, t'es livré à toi-même.
Ouais, bien sûr. Mais ça reste la meilleure école.
Quand ça marche, oui.
Ouais, si ça foire, c'est chiant. Ok, donc pour revenir aux milestones, j'aime bien, je me raccroche toujours aux milestones, mais les différents milestones. Donc, 2006, 7 millions, 6 millions et quelques.
7 millions et demi, ouais.
7 millions et demi. On est quand même bien loin des 150 d'aujourd'hui, quand même. Donc, il s'est passé des trucs entre temps.
2007, 20 millions.
D'accord.
2008, 30. 2009, 35, je crois. On a commencé un peu à stabiliser le wholesale. Et c'est à partir de 2009-2010 qu'on a commencé un petit peu à développer le retail. Même si la première boutique est née en 2007, à Marseille. À cette époque-là, c'est ma femme qui me tannait pour faire une boutique. Et moi, j'étais pas du tout retailer chaud, dans ma tête. Et même quand on l'a fait, j'étais pas du tout retailer dans la tête. Mais pas du tout, pas un brin.
Par contre.
Mais elle m'a poussé à faire une boutique parce que, elle travaillait en magasin.
Ouais.
À cette époque-là. Après, elle avait dû arrêter. Elle a accouché du premier enfant.
Ouais.
Et c'est vrai qu'après, on a commencé un peu à décoller. Et je lui ai dit, écoute, par rapport au salaire que t'as, et faire garder le petit pour, et tout ça, il vaut mieux. Donc, elle a arrêté de bosser. Et après, elle m'a dit, écoute, moi, viens, on fait un magasin, American Vintage, on fait un magasin sur Marseille. Et je m'en occupe, quoi. Et après quelques mois d'hésitation et on s'est dit pourquoi pas. Et là, on a fait la première boutique en mars 2007 à la rue Sainte. Et ça a été un carton. Donc moi, je m'y attendais pas et ça a été vraiment waouh. Et là, sur une boutique de 20-25 mètres carrés, tu fais des scores improbables. C'était nouveau, c'était magique. Ouais. Mais on n'était pas du tout retailer quand même. Donc c'était magique et.
Mais pourquoi tu penses que c'était magique? Parce que le produit était vraiment différenciant, que la marque était
non,
cool.
Non, il y a un effet de nouveauté.
Ouais. Trouver une nouvelle boutique, ça cartonne.
Ouais.
Quoi.
Et puis bon, je veux dire, il n'y avait pas American Vintage en boutique. C'était la première. C'était le début aussi des marques. Il n'y en avait pas vraiment des monomarques dans un esprit un peu contemporain qui sortaient de la grande distrie, quoi.
C'était même avant les Claudie, les Mages, etc. Ils n'avaient pas de boutique, tous ces gens-là encore.
Pas, non.
Non.
À cette époque-là, ou alors s'ils en avaient, c'était ils le faisaient de la même manière que moi. C'était vraiment à côté de chez eux, mais c'était pas développé.
Ouais.
Ils étaient pas développés, ça c'est sûr que non. Ils avaient peut-être une boutique rue du Four quand eux ils étaient dans le sentier. Mais c'était comme, je pense que c'était un peu dans le même état d'esprit que moi. C'est on fait une boutique pour avoir un laboratoire et on va s'en servir pour savoir ce qui marche pas, avoir une relation avec le shop manager et se dire et comment on va faire évoluer nos collections. C'était des labos. À cette époque-là, on pensait les magasins comme des labos. On les pensait pas pour faire du retail. Et c'est là où il y a la magie, parce que finalement, tu fais les choses avec insouciance. Mmh. Il y a moins de rigueur, il y a moins de rationalité, et tu mets que l'émotion devant, quoi. Donc, elles sont pas pensées comme un retailer. Mmh. Et elles sont pensées comme un showroom. Et bon, voilà, donc le concept, la marque, en un moment, on avait quand même fait un gros travail avec les bureaux de presse. Donc, on était très visibles. On avait commencé aussi, quand moi je me rappelle, quand j'ai commencé à prendre des parts de marché, on avait mis le paquet sur la pub.
Mais
sur
dans quoi?
Quelques magazines.
Dans les magazines.
En print, ouais. Mmh. C'était que du print à l'époque.
Ouais.
C'était pas d'affichage parce qu'on n'avait pas de retail.
Tu l'as fait tout de suite, ça? Le harness?
Le bureau de presse, les bureaux de presse, oui. Mmh. Tout de suite, en 2005, je pense, mmh. on a commencé. Et la pub, non, j'ai attendu d'avoir des parts de marché. Mmh. Ça servait à rien. Moi, j'ai toujours dit, faire de la pub, si on n'a pas un volume de chiffre d'affaires, ça, y a pas d'intérêt. Mmh. Donc, je préfère mettre mon argent dans mon stock, dans mes équipes, dans les infrastructures.
Mmh. Mais au début, c'est quoi qui est le plus puissant pour, enfin, il faut, pour développer un business?
Bah, il faut être tenace, il faut avoir la foi, il faut rien lâcher.
Mmh. Non, mais sur un produit, comment tu vends ton produit à tes premiers clients?
Bah, tu vends un concept, tu vends une histoire, tu vends un produit nouveau, tu vends un service. Mmh.
Mais comment tu la racontes avec, la question, elle est très intéressée, hein, parce que je suis en plein dedans, moi. La question, c'est, t'as tes premiers clients, là, 200, 300, 400, 500 clients. Comment tu vas les chercher, ces premiers clients, cette première fanbase, les premiers 1000 clients, quoi? Tu y vas à la mano avec le couteau entre les dents et
tu vas avec ta mallette, ouais. Tu vas avec ta mallette. Moi, quand il a fallu que je prospecte Paris, que j'ai vendu au premier client à Abu Dhabi Bazar ou autre, c'est des gens que je prospectais avec ma valise. C'est des gens que j'allais voir avec la valise ou dans les salons. Derrière, on prenait des rendez-vous et de là, tu tournais. Après, c'est le bouche à oreille et tu vends ton histoire, ton produit, ton concept, ton service. Comment, à travers ça, tu vas essayer de leur vendre qu'il y a quelque chose de nouveau. Et pour eux, il y a de l'argent à faire, quoi. Et l'idée, c'est de répartir les tâches et les rôles. Que ce soit bien réparti, que chacun fasse bien son job et que tout le monde s'y retrouve. Donc après, encore une fois, c'est pas arrivé comme ça. Hein. C'est 2099 comment on approche un client. Et moi, encore une fois, je veux dire, pour revenir à 99, avec mon frère, on a travaillé ensemble, vendeur en magasin, et on avait vu nos parents faire ça quand on était enfant. Les gens qui passaient devant la boutique, on était vendeur, hein, simplement. Les gens qui passaient devant la boutique ou qui faisaient du lèche-vitrine ont trouvé le moyen de sortir et de les faire rentrer.
Bien sûr.
C'était nos méthodes qu'on avait mis en place là où on bossait. Ça n'existait pas.
Ouais, c'est tu alpagues les gens dans la rue et tu les emmènes avec toi.
Oui,
quoi.
Mais ça se faisait pas.
Ah, c'était nouveau.
Dans
ça.
Les magasins où on a été, où on travaillait, où on a été formé.
Mais ça se fait pas trop encore d'ailleurs. Enfin, ça se fait plus quoi.
Ça se fait plus.
T'as toujours l'impression que les vendeurs ils attendent quoi.
Même à notre époque, quand on faisait ça, je vous assure, je t'assure, ça se faisait plus. Mais du coup, là où on bossait, on était à un moment donné mal placé. Et on avait mis ça en place parce qu'il y avait beaucoup de passages et les gens, ils regardaient la vitrine, mais ils partaient. Et on les accostait devant. Donc du coup, tu te développes, tu prends confiance après. Quand tu commences à prendre confiance en toi, tu commences à... Et puis après, c'est le terrain qui te fait aussi comprendre le produit, ce que le terrain a besoin comme produit.
Moi, ouais, tu vois
pas,
la réaction.
Je viens pas de la mode, je viens pas du style. Donc c'est pas je me mets dans une bulle, dans une boîte et je vais penser et tout ça.
T'écoutes
c'est
le client.
C'est le terrain qui... Bah oui, c'est les questions avec le terrain, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vendent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vendent pas. Et c'est là où tu te dis comment je vais essayer d'apporter le manque.
Mais d'ailleurs, toi, c'est une question je pense qui est intéressante. Aujourd'hui, vous êtes 800. Toi, t'es plus en contact direct avec le client final.
Non.
Comment tu fais en sorte de pas être déconnecté de tout ça?
Bah, c'est pas compliqué, hein. Honnêtement, déjà, c'est de regarder. Bah, après, nous, American Vintage, on est une boîte omnicanal. On est présent toujours dans le B2B, dans le B2C avec les magasins, le digital. On a développé aussi le canal de l'outlet sur dans les villages et on a les grands magasins aussi, bon, qui vont dans les côtés magasins, c'est du retail. Donc, du coup, cette omnicanalité nous donne beaucoup de résultats tous les jours. Donc, déjà, je me nourris tous les jours de ces résultats par canal. Ensuite, évidemment, t'as des managers par canal, donc t'échanges avec eux. Et t'as toujours quelques personnes clés avec qui t'échanges un peu plus, des fois en direct sur un shop manager ou un vendeur B2B ou un manager Et là, avec qui, voilà. Et après, tu fais, tu essayes de transmettre ça avec tes équipes. Mmh. Responsable de collection, design manager. Donc, comme je suis moi, et je pense que j'ai donné toujours la possibilité à tous mes managers de leur donner un terrain d'expression, de travail, nos limites. Un vendeur, j'ai essayé de lui faire développer en lui le côté produit. Mmh. Quelqu'un de produit, j'ai essayé de lui faire développer en lui le côté commerce. Mmh. Donc du coup, c'est de créer les passerelles entre les gens et les départements pour qu'ils se nourrissent.
Et concrètement, ça se passe comment ?
Ben, concrètement, tu structures. Tu structures par des directeurs commerciaux par canal, par un département style, modélisme, produit. Tu as un pôle produit. Du coup, tu fais rencontrer les responsables de collection avec les vendeurs. Donc tu crées des ateliers, tu crées des liens, tu crées de la formation. MV Camp qui est né entre temps.
C'est quoi MV Camp alors?
MV Camp, c'est le campus de la marque qui est vraiment né en 2019, qui existait déjà avant, mais qui était, tout n'était pas répertorié dans le campus. Du coup, c'est, l'idée de la MV Camp, c'est de se dire comment on va maintenant, peut-être, on fait plein de choses, mais on n'en parle pas. Depuis tant d'années, on fait plein de choses. L'omnicanalité, la France internationale, les boutiques, le wholesale, le retail, le merchandising, les gens qui grandissent en interne, le sport. On a des bureaux depuis 2012, on a gagné un prix AMOA sur l'architecture, où déjà depuis 2012, on a une salle de sport, un spa, on a un coach qui vient 3 fois semaine, un pote à moi, un ancien champion du monde pied-point. Il vient, il entraîne les équipes, ça crée des liens, des trucs, et tout ça, on n'a jamais parlé. Du coup, l'idée, c'était de dire comment aujourd'hui on va arriver à... On a réussi à être une marque désirable, on va essayer de devenir une entreprise désirable, et il va falloir qu'on communique sur ce qu'on fait, et ne plus laisser prendre la parole ou ne pas prendre la parole, parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait de manière naturelle et spontanée chez nous depuis le début, qu'il faut en parler. Et c'est en parlant qu'on va montrer que les gens, comment ils évoluent. Et je pense que c'est par rapport à nos méthodes de management et la vision du business et comment on le développe, comment on le déploie, qu'on arrive à faire des découvrir ou se révéler des pépites. Et moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui grandissent en interne, ou des gens même après tant d'années, quand on se quitte, ben, soit ils créent leur boîte, soit ils vendent dans des boîtes 10 fois notre taille. Et on en a eu beaucoup comme ça. Donc du coup,
c'est gratifiant.
Donc du coup, se dire pourquoi pas se créer un campus où derrière on va peut-être avoir un jour un label où chez American Vintage, finalement, par son développement stratégique et vision commerciale entre le retail, le wholesale, la France internationale, le digital, la fidélisation, le marketing, tous ces métiers, logistique et tout ça, pourquoi on pourrait pas se dire les gens avec ou sans bagage, j'en suis le parfait exemple, le pur produit. Ben finalement, c'est l'école de formation, quoi. Et c'est la réalité. Donc, oui, il faut des bases. Mais si t'as ces bases-là, nous, on va essayer de te faire travailler ta main gauche tout le temps pour que tu sois meilleur et plus fort. Et si t'es meilleur et plus fort, on sera plus fort, plus libre, donc. Et si toi, t'es plus fort, tu seras aussi plus libre. Donc, tu seras heureux chez American Vintage ou ailleurs. L'idée, c'est ça. Donc, si demain, on arrive à avoir un label où on se dit que la boîte, elle est formatrice, elle est forte, elle est présente, elle joue sur tous les tableaux, et elle pousse, et qu'elle révèle des talents, et qu'elle permet aux gens d'être... les gens, ils vont se dire, comparable, je préfère aller bosser dans une boîte où je vais grandir, apprendre et partager, plutôt que d'être un numéro chez des boîtes où ça sera de l'alimentaire, quoi. Donc ça serait une fierté pour moi, effectivement, demain qu'on puisse dire aller bosser chez American Vintage, c'est une fierté, on apprend et on en ressort plus grand.
C'est une école.
Comme
à une certaine
époque.
Comme
elle a été pour
moi. Ouais, ou comme dans les années, je sais pas,
Décathlon,
tel chez Procter, chez Procter et Gamble, chez Decathlon, chez Sephora, etc.
Tu pisses bleu.
Ouais. Mais tu ressors costaud, quoi.
Bah oui, tu ressors plus fort parce que t'apprends. Et puis nous, c'est une chance d'avoir la possibilité. Tout à l'heure, on parlait des chiffres. Tous les matins, je me nourris de tous ces chiffres. Tu peux avoir une vision sur le retail qui est différente du wholesale, du digital, des pays. Et
ouais,
par rapport à ça, tu donnes la possibilité à tes équipes de style d'avoir
de se
des terrains de jeu, de pousser la créativité, de pousser les nouvelles familles, les nouveaux produits. C'est nos limites.
Ok. Après le développement du retail, ça se fait toujours. Enfin, ça, c'était donc première boutique 2008.
2007.
2007.
Ensuite, c'est en 2009 et 2012 qu'on a vraiment commencé à pousser.
Mais par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est que t'as jamais fait rentrer de financiers, d'investisseurs. Comment t'as fait ça? Parce que il y a pas beaucoup de monde comme ça qui arrive à se développer.
J'ai fait ça, je sais pas, j'ai pas envie non plus de, c'est pas le but de me dire, je suis pas Zorro, je suis pas le plus fort. Je pense que j'ai fait ça comme un bon père de famille qui fait attention, qui vit pas au-dessus de ses moyens, qui, à une époque, quand on était 10, on faisait le travail de 20, quand on était 20, on faisait le travail de 40. Aujourd'hui, on est 100, on fait peut-être le travail de 90 ou 110, mais c'est normal, c'est une boîte qui grandit, qui se structure. Du coup, pendant tant d'années, on a réussi à faire, on est allé dans des endroits où on faisait attention au prix, dans les loyers, dans les infrastructures, dans tout.
T'as toujours vécu chichement, quoi. T'as toujours fait attention. Enfin, bon père de famille, quoi.
Ouais. Toujours, en essayant de faire attention. Et du coup, cash is king. Et du coup, si tu démontres que t'arrives à l'omnicanalité, l'international, c'est pas que, être bon père de famille, c'est une stratégie de développement, c'est une stratégie commerciale, c'est dans les achats, c'est dans les ventes, c'est dans tout ça que voilà, et comment tu redistribues après. À la base c'est ça. Après oui, j'aurais très bien pu me dire là je vais m'en mettre plein les poches aussi ou ça pour au final mettre une entreprise, c'est tout, c'est pas une vache à lait. Donc si l'entreprise est riche, ça va nous donner les moyens d'avancer et de développer. Si une entreprise, on la ponctionne, attention, quoi.
Tu veux l'emmener où, American Vintage?
Franchement, je me pose jamais ce genre de questions. Ce que je sais, c'est que cette richesse qu'on a d'être omnicanal, cette richesse de voir comment les choses elles évoluent, d'apprendre, ça n'a pas de prix. Cette richesse de savoir qu'on arrive aujourd'hui encore à ouvrir entre 15 et 30 magasins par an, en France, à l'international. J'espère qu'on développera des joint ventures sur les US, sur la Chine. J'espère qu'on développera d'autres continents, qu'on sera meilleur en Asie. Même s'il faudra y aller peut-être en direct au début pour trouver après des bons partenaires. Il n'y a pas de limite. Et j'ai envie de dire, tant que tu éprouves du plaisir et que tu penses que tes équipes, elles grandissent et qu'elles sont à fond et que tu penses que tu peux continuer, la liberté n'a pas de prix. Après, bien sûr, viendra un moment où tu te dis j'ai 41 ans, tu peux aussi voir les choses à un moment donné différemment. Oui, c'est certainement. Mais avec tout ce qu'on s'est dit là, c'est vrai que chez moi, si on doit retenir ce qui est important, c'est la liberté. Et j'aime pas trop les règles. Donc si c'est pour que dans la vie, il y a pas que si je peux rester comme ça à vie, pour être honnête, je reste comme ça à vie. Maintenant, faut pas être non plus suicidaire, hein. Avoir une boule magique et se dire tu vas garder à vie la même force, la même énergie, c'est très sportif. D'ailleurs, faut pas rêver, hein. Quand tu fais ça, c'est la Champions League tous les jours, hein. C'est la Coupe du Monde tous les jours. Faut être entraîné. Faut être préparé, être surentraîné même. Et à un moment donné, il peut y avoir des moments où tu fatigues, où il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu.
Comment tu fais toi alors justement pour rester over the top tout le temps, surentraîné, parce que bon, t'es humain, quoi.
Tout le temps. Non. Déjà. Donc, par contre, j'essaie de m'entraîner pour être
pieds points. Ouais.
Je cours, je focus sur ma famille. Je pense que je reste sur les bases dans tout. Je suis pas quelqu'un qui m'enflamme dans une vie. Je suis pas à la recherche. J'ai une vie normale. Clairement, des gens qui bossent avec moi, ils savent que je suis un des premiers au bureau et un des derniers à partir tous les jours. Après, je m'occupe de ma famille, de ma femme, de mes enfants non-stop. Et je suis pas là à chercher les soirées mondaines, à faire le fou et à avoir 12 000 voitures, 12 000 maisons ou 12 000 trucs.
C'est une vie simple et de travail et de labeur.
Ouais, une vie
normale,
simple.
Quoi.
Voilà.
Ouais.
Après, je m'interdis pas des plaisirs. Et heureusement. Mais, je suis pas là en quête de, non, au contraire. Parce qu'en plus de ça, quand t'as des garçons et d'où moi je viens et comment eux ils grandissent, c'est important pour moi d'essayer de trouver le bon équilibre pour qu'ils puissent être heureux et libres. Et pas pour papa ou maman. Pour eux.
Comment tu fais ça justement? Parce que tu non mais c'est un vrai sujet que je pose toujours.
Bah, j'ai eu des parents exceptionnels. Ouais. J'ai eu une éducation exceptionnelle.
Ouais.
Où chez moi j'ai eu la chance d'avoir une maman et un papa et une maman qui recevait toujours la terre entière.
Mm.
Où chez elle la maison était, les portes étaient toujours ouvertes.
Avec beaucoup d'amour.
Elle s'occupait voilà, elle s'occupait toujours de tout le monde. Donc du coup c'est naturel.
Mm.
Et c'est vrai que par le parcours peut-être que j'ai vu ou j'ai aperçu ou j'ai entendu de mon père, de ma famille. Peut-être que ma mère, elle m'a tellement dit, tu vois, faut toujours faire attention parce que tu peux être en haut, en bas. Regarde ton père, il a eu des moments, voilà. Et après, et moi, c'est vrai que dans cette adolescence que j'ai eue, qui en fait ont été moteurs pour moi, parce que je voulais venger mon père, pour être clair. Je voulais venger mon père dans le sens où j'ai su qu'il a, il a rendu beaucoup d'hommes, des gens autour de lui. Et quand lui, il a eu des difficultés, il n'y avait plus personne. Donc, j'ai voulu le venger.
Mmh.
Et je disais, quand j'étais gamin, je disais, je serai riche, plus grand et je te vengerai.
Mmh.
Et tout le monde me rayonnait.
Mmh.
Et j'avais faim. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, après, tu te dis, t'as toujours ta mère qui te répète, même si un jour, t'es en haut.
N'oublie pas, tu peux.
Comporte-toi, hein, parce que tout peut changer du jour au lendemain.
Bien sûr.
Et puis voilà, et puis
mais comment tu transmets ça à tes enfants? C'est mon obsession, il y a plein d'obsessions. Mais comment tu fais quand tes enfants ne manquent pas? Ils manquent pas à tes enfants aujourd'hui.
Bah, t'essayes de je veux pas dire créer le manque parce que ça serait mentir, mais t'essayes que ce qu'ils te demandent, tu dis souvent non. Il y a des choses que tu fais croire que, alors des fois ils me disent mais arrête papa tu mens, ou ils essayent de savoir. Déjà je parle jamais d'argent avec eux.
Ouais.
Déjà, jamais, même si des fois, par moment, ils essaient de me questionner ou ils me disent, mais on t'a googlisé, tu peux nous dire ça, ou je sais pas quoi. Je dis non, vous n'êtes pas en âge et c'est pas le but. C'est d'essayer de créer le manque sur certains... Voilà, donc c'est un jeu, j'amplifie des fois, je leur dis non, ça, on peut pas l'acheter, c'est trop cher, même si c'est pas vrai. Et ils le savent, je pense, ils sont pas bêtes. Mais à côté de ça, c'est les moments que je vais passer avec eux, pour être honnête. C'est depuis petit, en fait, j'ai toujours pris mes enfants, mes neveux, et j'ai toujours fait avec eux beaucoup d'activités. Vélo, de foot, de sport, de balade, de plein de choses. Et c'est vrai qu'à la fin, des fois, ils te disaient « tu peux m'acheter ça ». Je leur disais « non, le seul cadeau que je te fais, c'est d'avoir passé ces journées avec vous. Et à la limite, là, voilà, je t'achète la crêpe ou les bonbons ou le coca ou des conneries comme ça, mais pas de matériel. Donc je fais attention avec ça. Après ils sont en âge où ils grandissent et
ils veulent des sneakers à 800 balles quoi. Non, c'est ça.
Ouais, moi avec moi, je sais qu'ils les ont pas, des fois ils y arrivent par d'autres moyens à torpiller ou voilà, mais je dirais pas que, mais c'est vrai que sur ça, j'essaie d'être strict. En fait, j'essaie d'être très dur sur ça et à côté de ça, je suis très cool sur tout le reste. Mais je pense que honnêtement, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction de ses enfants. C'est comme dans le management. Il y a des fondations, il y a des fondamentaux, dans une philosophie, il y a une vision. Après, il faut l'adapter en fonction des gens. Faut pas avoir le même discours avec tout le monde. Ça marche pas. Ensuite, je pense qu'il faut leur donner beaucoup de temps et d'amour. D'accord? Mais il faut aussi les rendre responsables. Et c'est un peu pareil dans le travail. Je veux dire, le but, c'est pas d'être le papa il faut pas avoir non plus trop un comportement paternaliste. Faut savoir, à un moment donné, couper le cordon ou les laisser pour qu'ils se responsabilisent par les voyages, par le sport. Moi, je mise beaucoup sur le sport, hein. Je te cache pas que ce soit en entreprise ou à la maison, je me bagarre avec mes enfants aussi pour qu'ils aillent à l'entraînement 3 fois semaine. Et je m'en sers pour je leur coupe la play, je leur coupe l'ordi. D'ailleurs, là, en ce moment, pendant un mois, ils auront plus rien. Justement, parce que ils respectent pas ces règles-là. Et voilà. Donc, tu joues, tu essayes, mais à la fin, c'est le temps et la communication. Et je pense sincèrement que, et c'est valable pour tout, il y aura des moments, il y a eu et il y en aura encore des moments difficiles. Il y aura des moments où tu te dis, purée, c'est pas possible. Ça va pas passer, ou là, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que c'est que des passages. Je pense que si tu lâches pas, si tu restes, si tu arrives à prendre le recul et la hauteur sur les essentiels, ils y reviennent. Peut-être qu'ils feront, ils auront des moments dans leur vie où ils feront des pires conneries et ça me rendrait fou. Mais je pense qu'à la fin, on revient quand même aux valeurs quand même qu'on a eues. Faut pas rêver. Je pense que Je pense que ça paye. Le travail, l'éducation, c'est la base. Et la France, c'est un des plus beaux pays au monde, si ce n'est le plus beau pays au monde, et elle nous a beaucoup appris, et merci. Et je pense que pendant un moment, c'est dommage que beaucoup de trop de pays sont venus un peu en France pomper et s'inspirer. Et nous, pour X raisons, on a un peu tiré la population vers le bas. Justement parce que je trouve qu'en éducation, et ça a tiré vers le bas, et du coup, alors qu'on a un potentiel de malade. Et voilà, donc du coup, la France a été à une époque un pays fort et riche et capable. Donc je pense que c'est un peu pareil au travail ou avec nos enfants. Il faut pas croire que si on est au top, ou faut continuer par l'éducation, l'effort, le travail, l'ouverture, le sport, l'équilibre de tout ça qui vont faire que ils seront heureux. Mais après, moi je dis toujours pareil à mes enfants. Si t'as envie d'être mécano ou pompier, c'est pas un problème. À une époque, mon fils il voulait être vétérinaire. Et du coup, j'achète un chien et tout ça, mais il parle, mais bon. Et après, il te dit, après, j'ai essayé de lui dire, quand je lui dis, tu vas te faire ta clinique vétérinaire, il avait peur, il me dit, ouais, mais c'est beaucoup, attends, une clinique. Alors là, j'ai dit, non, mais en fait, tu vas pas en faire une, tu vas en faire 10. Ça, moi, quand je voyagerai, j'enverrai une de partout, quoi. Non, mais c'est beaucoup, tu m'aideras alors, j'ai dit, non, donc après, tu voyais ses yeux et tout ça, donc t'essayes gentiment, à essayer de dire, écoute, tu veux être vétérinaire ou pompier, ou si tu veux être pompier, à un moment donné, il voulait être pompier. J'ai dit, ben, j'aimerais te voir sur le journal et qu'on dise,
c'est toi qui as éteint Notre-Dame.
C'est toi qui as sauvé tant de personnes dans tel incendie ou tel truc, et
t'auras 10 camions. Passion. T'auras 200 camions. Ouais.
Voilà. Donc, quoi que tu fasses, papa, il sera heureux, il t'aimera.
Bien sûr.
À un moment. Mais si tu peux être un peu ambitieux et passionné.
Et faire les choses à fond. Heureux.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, j'essaye à travers ça de.
Valeur travail.
Avec mon épouse, on essaie d'essayer de leur transmettre ces valeurs-là. Pour qu'ils soient heureux et libres. Ça, c'est le plus important. Après, il y en a, vous savez, j'en ai trois, j'en ai un qui est comme ci, un qui est comme ça. Et il faut savoir vite et tôt accepter certaines choses et de les pousser là où ils peuvent être bons et pas là où on veut. Je pense que, et encore une fois, ça, je peux me permettre de le faire parce que je l'ai vu autour de moi. Moi, j'ai vu autour de moi des gens, des potes de mon âge, de ma génération, qui ont eu des parents qui ont réussi, et du coup ils ont eu des moments une pression, une mauvaise pression, ou des comparatifs. Des fois même pour certains, ils sont venus me dire, ils m'ont dit, purée, tu te rends pas compte, mais limite autant je t'aime autant je te déteste, parce que souvent on m'a comparé à toi alors que t'étais un exemple pour nous et pour tous, et du coup chaque fois on te prend comme point de comparaison. Et c'est dur, et c'est vrai que donc du coup je me dis, il faut pas mettre une mauvaise pression aux enfants. Il faut les emmener là où ils peuvent aller. Après, faut pas donner une Ferrari à ton gamin. S'il va faire un accident, il va mourir. Vaut mieux lui donner une Peugeot, une Renault, une Mercedes, et pas une Ferrari. Et celui-là qui peut piloter une Ferrari, ben oui, aide-le à piloter la Ferrari, pourquoi pas. Donc ça, c'est
très bien.
C'est les parents.
Écoute, ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Je sais pas, alors je pense qu'on peut encore aborder plein de sujets, mais est-ce que t'as une question que t'aurais voulu que je te pose en particulier?
Non, je sais pas. C'est toi qui mène. C'est toi le boss là. C'est pas moi. Donc moi je réponds et j'essaie juste de partager ma vie, mon expérience. Je pensais surtout ça et voilà. Donc si t'as d'autres sujets,
qu'est-ce que tu ferais différemment?
Oula.
Et là, on repart pour 1h30. Non, tu regrettes rien.
Non, franchement, je regrette rien. Qu'est-ce que je ferais différemment?
T'es pas obligé, hein.
Mais qu'est-ce que je ferais différemment?
Non, mais il y a aucune raison que tu fasses quoi que ce soit différemment, parce que tu t'es quand même pas trop mal démerdé, quoi, j'ai l'impression. Globalement, t'as l'air... Enfin, c'est satisfaisant comme vie, quand même, non?
Oui. Moi, je m'en plains pas. Je suis très bien. Je suis très heureux. J'ai pas de... Non, qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être que je ferais un travail sur moi-même des fois pour être un peu plus plus tendre ou affectueux avec mes proches, c'est un peu dur.
Ouais.
Mais je crois que c'est une déformation un peu professionnelle et, et de mon parcours qui m'a rendu un peu...
C'est tout le temps la guerre, quoi. Ouais,
ouais, c'est un peu ça, en fait. Ouais. Et du coup, par moment, je pense que... C'est vrai que... Donc, peut-être maintenant un peu moins qu'avant, pour être honnête, mais c'est vrai que t'es... C'est un peu... pas évident à me suivre, peut-être. Mmh. Un côté un peu machine sur des trucs, à toujours avancer, tout ça, et ça peut user. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, la vie, après, c'est comme ça que je me suis construit, et des trucs, et c'est vrai que des fois, je ferais... Ouais, prendre... des fois, être un peu plus tendre et affectueux sur des trucs, être moins...
Moins bulldozer, moins machine, quoi.
Un peu, ouais.
Mmh. Très bien. Et dernière question, c'est la question que je pose toujours à mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Oula.
C'est pas facile, hein.
Entendre.
Entendre, ouais.
Mais sur quel sujet? C'est par rapport
Ça s'appelle entreprendre dans la mode, mais après tu peux t'ouvrir à d'autres sujets, à d'autres industries ou à des artistes, etc. Mais bon, l'idée c'est quand même que j'interviewe des gens dans la mode, donc.
Oula, c'est une colle ça.
Ouais.
Qui je pourrais entendre?
Tu connais Michael Azoulay?
Ah ouais, dans la mode. Ouais, moi, bah oui. Moi, c'est clair que si j'ai quelqu'un avec qui, dans la mode ou dans l'entrepreneuriat, qu'un modèle, un mentor, un exemple, c'est Monsieur Ortega, du groupe Inditex.
Ouais.
C'est
The King.
The King, ouais.
Ouais.
Beaucoup de respect et d'admiration, même si je le connais pas, mais j'ai l'impression de le connaître tellement dans son profil, dans son comportement, là où il vit, enfin, toutes ces choses, tout ce qu'il a fait, c'est juste, extraordinaire, et en même temps il a l'air tellement simple et bon et génial que si je pourrais prendre un jour un café avec lui et échanger, ça serait magique. Mais ouais, parce que c'est quelqu'un qui a rendu, c'est des gens comme ça qui ont permis, ils ont tiré le peuple vers le haut, ils ont donné la possibilité à tout le monde d'être plus mode, une vraie mode plus accessible, et du coup ça rend les gens plus beaux, meilleurs, et ça c'est génial. Du coup, si tout le monde se sent plus beau, plus fort à travers la mode, bah je pense que les gens ils auraient un peu plus le smiley tous les jours, ils iraient moins au combat. Et
c'est ton motto, ça? C'est pourquoi tu fais American Vintage? Pourquoi tu fais du vêtement? C'est vrai que c'est con, je t'ai même pas posé cette question là. À part le fait que tu sois tombé dedans, c'est quoi, qu'est-ce qui te drive en fait? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? À part aller faire une boîte qui fait plus de chiffres, qui est plus grande, qui fait grandir plus de gens, etc.
Bah déjà, je trouve que dans ce métier-là, c'est du concret tous les jours, c'est de l'instantané, c'est du temps réel, c'est ça va vite, c'est pas long. Moi, j'aime, par exemple, je serais pas fait pour l'immobilier, c'est trop long, ça me plaît pas. La mode et le textile, il y a beaucoup le toucher, le contact, le parler, les matières, et voilà. Et c'est vrai que ce métier, alors comme je dis, hein, franchement, il faut être surentraîné parce que c'est très sportif.
C'est sportif, ouais.
Mais c'est up down tout le temps, et c'est hyper excitant. C'est hyper, hyper excitant.
Mais toi, tu marches à l'adrénaline, alors?
Je pense.
Ouais.
Ouais. Je pense que c'est ça, mon... Et, enfin, j'en suis sûr. Hein. mais clairement, c'est un métier qui est fou. Et quand tu, en plus, tu es sur l'omnicanalité, l'international, les magasins, le produit. Moi, j'adore le produit. Je veux dire, je passe 80% de mon temps avec les équipes dans le produit, ce qui me plaît le plus. Le développement commercial pour le challenge. Les nouveaux pays, les nouveaux marchés, les nouveaux magasins, voilà. Mais c'est vraiment ces deux sujets qui m'intéressent le plus, c'est le produit et le développement. C'est le produit et le développement qui me passionne. Et après, c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre en termes de psychologie, en termes de management, en termes de nouveaux métiers, ben là, je m'enrichis et ça me passionne. Après, je suis un garçon, je pense que je suis un perfectionniste et j'essaie d'aller toujours plus loin. Donc du coup, sur des sujets informatiques, sur des sujets logistiques, sur plein de sujets comme ça, quand tu travailles avec tes managers sur la strat et tout ça, tu t'enrichis. Et je trouve qu'après, dans ton quotidien, même dans la famille, dans l'éducation et tout, ça te sert quand même. Et voilà pourquoi j'aime ça.
Cool. Très bien. Eh ben, merci infiniment. J'ai passé un super moment. Et
merci,
je te dis
toi,
à très bientôt. Salut, Mickaël.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.